de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3. Dans notre étude de cette épître depuis quelques semaines, mais ça devient presque quelques mois maintenant, nous sommes arrivés au verset 16. Et nous allons juste prendre le verset 16 aujourd'hui. D'habitude, on prend des portions plus longues, mais il y a certains versets qui sont très denses et nous avons besoin de nous arrêter vraiment pour les considérer et les peser et savoir comment nous pouvons les intégrer, les vivre. Donc, je vous lis à partir du verset 16 du chapitre 3. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse ou avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous. En réalité, c'est des participes en grec. On devrait lire vous instruisant et vous avertissant réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantons à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Femmes, et encore c'est un participe en grec, je vous explique pourquoi tout à l'heure, étant soumises chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimons, vous êtes en train d'aimer, aimons chacun votre femme, et ne vous agrissons pas contre elle. Enfants, obéissant à tout, en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Les pères, n'irritons pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Les serviteurs, obéissant en tout à vos maîtres, selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, mais comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y a pas de considération de personne. Maître, et encore accordant à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Nous allons nous poser quelques questions au sujet du verset 16. Aujourd'hui, essayer de comprendre comment et pourquoi nous devons laisser la parole de Christ demeurer en nous dans toute sa richesse. Alors, la première question, c'est qu'avons-nous dans ce verset, tout simplement? Qu'avons-nous? Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Vous avez un commandement, vous avez un ordre. Mais c'est un ordre un peu étrange parce que en français et en grec, c'est au passif. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous vous laissez faire. Que la parole de Christ demeure en vous. Mais vous avez quelque chose à faire parce que vous devez permettre à la parole de demeurer en vous dans toute sa richesse. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que Dieu est déjà en train de vouloir vous parler et faire demeurer dans votre cœur sa parole. D'accord? Si ce n'était pas vrai, vous ne pouviez pas répondre à ce commandement. Laissez la parole demeurer en vous, parce que Dieu est déjà en train de faire cela. D'accord? Dieu vous parle constamment. Souvent, nous avons les oreilles bouchées ou le cœur déjà rempli d'autres choses. Mais nous allons apprendre aujourd'hui à laisser la parole demeurer en nous. C'est quoi la parole de Christ? Laissez la parole de Christ. Savez-vous que c'est la seule fois dans la Bible où la parole est appelée la parole de Christ. Souvent, il est appelé comment? La parole de Dieu. D'accord. Et ici, nous avons la parole de Christ. On peut spéculer sur pourquoi Paul utilise le mot parole de Christ. Probablement parce que dans l'épître aux Colossiens, c'est le plus christocentrique de toutes les épîtres. Paul doit ramener les Colossiens à Christ parce qu'ils sont en train de dévier vers autre chose. Et il veut que vous sachiez, que nous sachions, que tout ce que Dieu nous donne et nous fait vient à travers le Seigneur Jésus-Christ. Sans Christ, vous n'avez pas de contact avec Dieu. Mais la parole de Christ n'est pas la parole que Christ a prononcée simplement, c'est plutôt la parole au sujet de Christ. D'accord? La parole au sujet de Christ. Et donc, c'est une manière de dire que la vérité évangélique, la vérité de la bonne nouvelle au sujet de Jésus, doit demeurer en vous dans toute sa richesse. D'accord? Alors, où est cette parole de Christ, au sujet de Christ? Quelle partie de la Bible parle de Christ? Tout. Je vous donne un exemple. Jésus a dit, après sa résurrection, à ses disciples ceci. C'est là, Luc chapitre 24, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, Ancien Testament, dans les prophètes, Ancien Testament, et dans les psaumes. Tout ce qui était écrit au sujet de qui? De moi, le Christ, dit-il. Alors il leur ouvrit intelligence pour comprendre les Écritures. Donc vous voyez que le Seigneur dit que dans les psaumes, dans les prophètes et dans la loi de Moïse, le sujet principal est Jésus-Christ. Ça peut vous étonner, mais c'est vrai. Deuxième passage, 1 Pierre 1. Pierre nous dit ceci. Il dit, les prophètes, donc de l'Ancien Testament, qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, vous, les chrétiens, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Regardez Amos, viens voir Osée ou Jérémie. Et ils sont penchés sur leur propre prophétie. Dieu leur donne un oracle et ils veulent eux-mêmes comprendre. Ça parle de qui? D'accord? Voilà. Les prophètes qui ont prophétisé ont fait leurs recherches et leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait quoi? Attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. L'Ancien Testament parlait des souffrances de Christ et des gloires de salut qui s'en suivent. Donc, toute cette Bible, si vous la lisez bien, de manière christocentrique, va être la parole de Christ pour vous. Mais il est vrai que dans le Nouveau Testament, nous avons la boisson un peu plus concentrée. C'est-à-dire la pleine révélation de Christ se trouve dans le Nouveau Testament. Christ était caché un peu dans les images dans l'Ancien Testament, mais il est pleinement révélé dans le Nouveau. Maintenant, il y a une chose de plus à dire en réponse à cette première question. Et je n'ai que... En tout cas, j'ai 2 pages et demie de notes, donc je ne dois pas être très long aujourd'hui. Mais si vous êtes encore avec moi, il y a une chose importante à comprendre au sujet de ce passage, et c'est pourquoi je vous ai lu toute la suite du verset 16. Et la chose importante à comprendre, c'est que Colossiens 3, à partir de 16, est complètement parallèle à Éphésiens 5, 18 et suivant. Alors, on va lire Éphésiens 5, 18 et suivant, et vous allez voir que nous sommes en train de pratiquement lire le même passage. Maintenant, avant de lire, je vous ai dit
que toute la suite de ce passage était des participes. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que quand on dit en Colossiens que la parole de Christ demeure avec sa richesse en vous, chantant des psaumes, vous instruisant des participes, aimant votre mari, toutes ces choses, ça veut dire que toutes ces choses, ces actions dans l'église, dans la famille, dans le travail, découlent de l'effet de la parole de Christ qui vous change. D'accord? Quand la parole de Jésus-Christ demeure avec sa richesse en vous, vous allez chanter. Vous allez aimer votre femme. Vous allez servir au travail, même des patrons qui ne sont pas tellement gentils. Vous allez le faire comme au Seigneur. Tout cela découle de la parole et son effet sur vous, et vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire sans que la parole demeure dans sa richesse en vous. Et donc, quand je rencontre un couple avec des problèmes conjugaux, une des premières questions que je pose, c'est « Expliquez-moi votre relation avec la Bible. » Un couple est venu 4 heures pour me voir à Grenoble, ils ne me connaissaient pas, ils ont fait le trajet parce que apparemment leur pasteur ne faisait pas de conseil pastoral conjugal. Ils sont arrivés et il y avait des problèmes de couple très graves. Alors j'ai demandé au monsieur d'abord, explique-moi ta vie de prière et de lecture et de méditation de la Bible. Explique-moi comment tu vis ça de jour en jour. Prétendait être chrétien évangélique depuis 20 ans, très actif dans les églises évangéliques depuis 20 ans. Et donc il me dit, je dois avouer que je n'ai pas vraiment une vie de... Je ne lis pas régulièrement la parole, je n'ai pas un moment avec le Seigneur tous les jours. Ok. Donc je lui ai montré le passage. Tu ne peux pas aimer ta femme, sauf si la parole de Christ demeure avec sa richesse en vous. En fait, pour vous finir l'histoire, parce que vous vous posez des questions, un an plus tard, il est venu me dire qu'il venait de se convertir. Il pensait être chrétien depuis 20 ans dans les églises évangéliques, baptisé. Il avait eu une expérience avec le Seigneur quelque part, mais ce n'était pas une vraie conversion. Il a dit que je n'ai jamais compris que Dieu est saint et je n'avais pas compris ce que c'est que de venir à Dieu en tant que pécheur, pour sa grâce. Voilà. Mais voilà, donc maintenant, avec cette parenthèse, excusez-moi, nous allons lire Éphésiens 5. Et rappelez-vous de Colossiens 3 en lisant, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. » Ici, ce n'est pas « laisser la parole demeurer en vous », mais c'est laisser l'esprit vous remplir. C'est le seul changement. Et nous avons après cela des participes encore. Je vais les lire comme ça. Soyez remplis de l'esprit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur. On avait vu ça, n'est-ce pas? Rendant toujours grâce pour tout à Dieu le Père. On avait vu cela aussi. Femmes étant soumises chacune à votre mari. Oui, on avait vu ça. Verset 25, « Marie, aimant votre femme, oui, ça, on avait vu. » Chapitre 6, verset 1, « Enfants, obéissant à vos parents, oui, c'était là. » Verset 5, « Serviteurs, obéissant à vos maîtres, nous avons exactement les mêmes passages, les mêmes effets. » Et ça veut dire simplement qu'être rempli de l'esprit en tant que chrétien, c'est une autre manière de dire que la parole de Christ demeure dans sa richesse en vous. Parce que la parole est l'outil de l'esprit. Chers amis, la vie chrétienne est toujours par l'esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Jamais l'un sans l'autre. L'esprit sans la parole, ça crée quoi dans la vie chrétienne? Ça crée du fanaticisme. L'esprit m'a dit, Dieu m'a dit, je ne suis pas ancré dans la parole, n'est-ce pas? Je peux partir n'importe où. Enfin, ça, ce n'est pas vraiment l'esprit de Dieu qui fait ça. Mais les gens pensent. Mais la parole, son esprit, ça fait quoi dans la vie chrétienne? C'est du légalisme, c'est du moralisme. J'ai des lois, mais j'ai aucune puissance en moi pour l'appliquer, n'est-ce pas? Donc, être rempli de l'esprit, avoir la parole de Christ qui demeure en vous, c'est la même chose. Ça va? Ok. Maintenant, nous allons poser notre deuxième question. Que devons-nous faire, que devez-vous faire avec la parole de Christ vous-même pour qu'elle demeure avec sa richesse en vous? Alors, voilà le commandement. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Mais comment? Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, une attitude. Une attitude. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que le cœur y soit. Paul est en train de nous exhorter à une attitude de réceptivité. Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes réceptif à ce que Dieu dit et tout ce que Dieu dit dans la parole de Christ? Ou est-ce que vous voulez corriger ça? Non, ça, cette partie, j'aime pas. Est-ce que vous êtes prêt que la parole de Christ et toute la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse? Ça, c'est la première chose. Mais après cela, il y a des choses pratiques. Le mot « demeurer », que la parole de Christ demeure en vous, ça vous parle de quoi? Alors, le mot « demeurer » nous parle de permanence et d'intimité. Quand je demeure quelque part, je ne passe pas par là. C'est juste? Demeurer, c'est s'installer pour de bon. Et Dieu vous dit, il faut que la parole de Christ, dans toute sa richesse, vienne s'installer dans votre vie par une lecture constante, régulière, par la méditation, par toutes sortes de contacts avec la parole. Il ne faut pas, chers amis, en tant que chrétiens, que vous ayez un contact avec la parole de Christ le dimanche matin, et puis que vous allez ailleurs et que la parole ne soit pas proche de vous pendant plusieurs jours. Non, il faut que la parole de Christ demeure constamment, de manière permanente, dans ta vie. Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu médites la parole? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Tondais le gazon avec ça dans ma poche. Alors, c'est quoi? C'est les deux versets qui m'ont frappé dans ma lecture du matin. Donc, je les ai écrits et je suis allé travailler dans le jardin. Mais je pouvais sortir ça par moment parce que c'est vraiment des passages incroyables, des promesses formidables. Je ne vais pas vous le dire, mais si vous voulez noter, Deutéronome 33, 12 et 26, alors c'est vraiment intéressant. Donc, il y a beaucoup de manières de laisser la parole demeurer en vous. Mais nous devons le faire. Jésus a dit ceci. Il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole... » C'est intéressant, la parole demeure en nous et nous demeurons dans la parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si vous demeurez dans ma parole, si elle demeure en vous. J'ai remarqué en tant que pasteur depuis des décennies que quand je rencontre un chrétien et je commence à le connaître quand même un peu, son caractère, sa spiritualité, je peux savoir s'il lit la Bible beaucoup ou pas. Et je ne pense pas m'avoir trompé une seule fois, parce que c'est tellement évident, il n'y a rien qui puisse produire cet effet d'une personne qui est imprégnée de la parole. Dans ses pensées, ses réactions, son caractère, ses émotions, tout est travaillé par la parole, tout est remodelé par la parole qui demeure en lui. Maintenant, ça c'est le mot demeurer. Maintenant, cette partie avec sa richesse, ou bien comme d'autres versions disent, dans toute sa richesse. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Vous savez qu'il y a des gens qui lisent la parole beaucoup et qui n'en profitent pas. Il y a plusieurs raisons peut-être pour ça. Ils peuvent la lire sans une vraie foi véritable, d'une manière détachée, d'une manière intellectuelle. Mais lorsque nous lisons la parole, nous devons nous rappeler qu'elle est un testament. Alors, lorsque quelqu'un meurt et vous savez que vous êtes héritier d'une grande fortune, et vous arrivez chez l'avocat et il va lire le testament. Il y a des richesses, n'est-ce pas, dans ce testament pour vous. Comment est-ce que vous écoutez cette lecture? Et la Bible dit que la parole de Christ est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle incroyable, époustouflante, au sujet de ce que Dieu donne. Et voici le témoignage de Dieu, que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et toute cette parole est remplie de choses pour vous, que Dieu veut vous ouvrir le cœur pour comprendre. Je vous donne deux exemples. En Éphésiens, Paul dit ceci: « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, qui sont à vous si vous êtes chrétien. » Ou bien, dans d'autres passages, nous entendons que ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais entré dans le cœur de l'homme, ces choses Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions comprendre les choses que Dieu a gratuitement données à nous. Donc il y a des richesses infinies qui sont à vous, qui sont pour vous, mais vous n'avez pas encore vécu cela. Je ne parle pas de richesses matérielles, bien sûr. Je parle de choses qui sont tellement... qui vont vous toucher au niveau de votre manière de vivre les épreuves, la paix que vous pouvez avoir, la stabilité, votre identité, qui vous êtes, de comprendre la possibilité de vivre dans la joie, en sécurité, et toutes ces choses... Et ces choses sont dans la parole, mais il faut que nous les découvrions. Ça veut dire que nous ne pouvons pas laisser la parole de Christ demeurer en nous superficiellement. Et c'est toujours un piège pour nous, c'est une possibilité pour nous tous, tout le temps. Nous devons apprendre à réfléchir de manière très profonde sur la parole, en église et individuellement, de prendre le temps, de peser, de poser des questions, de ressasser la parole en nous-mêmes. Dans l'église, nous devons donner à la parole la place centrale. Dans une église chrétienne, il ne faut pas que ce soit... quoi que ce soit d'autre, que ce soit la musique, que ce soit des pièces de théâtre, que ce soit les activités sociales, que ce soit... Il peut y avoir des bonnes choses que nous devons avoir dans l'Église. Nous devons les avoir. Mais la parole doit être au centre. Maintenant, la troisième question. Qu'est-ce que la parole de Christ fait en vous lorsqu'elle demeure en vous dans toute sa richesse? Que ce soit vrai. Mais qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, je pense que je vais juste vous poser quelques questions. Est-ce que tu veux être sauvé? Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas encore chrétien. Est-ce que tu veux comprendre le chemin du salut? Eh bien, 2 Timothée 3 nous dit... Paul dit à Timothée, « Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, la parole de Christ, qui peut te rendre sage à salut. » C'est la parole de Christ.
Peut-être tu connais le chemin du salut, mais tu n'as pas la foi. Et tu sais que tu n'as pas la foi. D'où vient la foi? Comment peux-tu l'avoir? Eh bien, Paul dit en Romains 10, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ensuite, peut-être tu as besoin d'être affranchi. Es-tu lié par une accoutumance, par un péché, par l'anxiété, par l'orgueil, par la jalousie, par la tristesse? Nous connaissons ces liens-là, n'est-ce pas? Eh bien, comment être libéré? Je vous ai lu tout à l'heure que Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, donc de ma parole, vous affranchira. La liberté, l'affranchissement vient de la parole de Christ. Vous avez peut-être envie de grandir spirituellement. Vous êtes chrétien, mais vous sentez que dans certains domaines, j'ai vraiment besoin de grandir. J'ai envie de grandir. Mais comment le faire? Eh bien, encore la parole nous dit ceci, 1 Pierre 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés, comme Johannes, le lait spirituel est pur, donc il parle de la parole de Christ, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Ou bien peut-être vous vous dites, je veux apprendre à prier de manière à être exaucé. Non pas pour mes fins égoïstes, mais je veux avoir une vie de prière comme Dieu le veut. Que je puisse accéder au trône de la grâce et demander pour les autres que le royaume vienne et voir Dieu exaucer plus mes prières. Comment y arriver? Bien, Jésus donne cette réponse. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, dans toute la richesse, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais c'est une condition que les paroles de Christ demeurent en vous. Ça changera votre vie de prière parce que vous allez prier différemment. Ou bien, peut-être vous avez besoin de la puissance pour être vainqueur contre la puissance des ténèbres. Parce que Satan est réel. Et nous ne savons pas à quel point parfois nous sommes malmenés par Satan. Par des forces invisibles. Mais pourquoi est-ce que je me sens tellement coupable ou je n'ai aucune vie ou je suis tenté tellement par ce désir? C'est notre cœur pécheur d'abord, mais parfois, le diable lui-même, selon la Bible, attise encore plus le péché qui est déjà en nous. Mais comment être vainqueur sur le diable? Eh bien, la Bible donne cette réponse. 1 Jean chapitre 2, « Je vous ai écrit, Père, il parle de certains groupes dans l'Église, parce que vous avez, Père spirituel, hein, parce que vous avez connu celui qui dès le commencement, je vous ai écrit jeunes gens, c'est-à-dire ceux dans l'Église qui sont spirituellement des jeunes adultes, d'accord? Jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. » Il met ces deux choses ensemble, que la parole de Dieu demeure en vous et vous donne cette victoire de plus en plus grande sur le malin. Peut-être vous vous dites, je veux servir mon Sauveur. Je veux vraiment porter du fruit pour lui. Mais comment le faire mieux? Eh bien, la Bible nous donne cette réponse. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour que vous puissiez faire des bonnes œuvres, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour vous équiper, afin que vous soyez accompli. Vous ne pouvez pas prier comme il faut,
grandir comme il faut, servir comme il faut, sans que la parole de Christ demeure dans toute sa richesse en vous. C'est simplement impossible. Donc, nous nous exhortons aujourd'hui que nous devons lire la parole et étudier la parole en Église et individuellement. Vous devez vous installer dans une Église où la parole est enseignée systématiquement. Si vous êtes dans une Église où on gère la parole de Dieu de manière un peu sporadique, un peu comme ça, en piochant dans des versets, vous n'allez pas aller loin. Mais faites partie d'une église où la parole est au centre et où vous l'étudiez systématiquement. Et chez vous individuellement, lisez la parole systématiquement, livre par livre. Est-ce que vous faites ça? Ou est-ce que vous piochez dans les parties que vous aimez bien? Lisez la Bible systématiquement, de la Genèse à l'Apocalypse, année après année. George Müller, ce grand homme de Dieu dans le 19e siècle qui a fondé les orphelinats, qui était connu par le monde entier, le monde chrétien, il descend de sa chambre un jour, il annonce à sa famille, « Je viens de lire la Bible pour la 200e fois en entier. » Lisez la Bible systématiquement. Lisez la Bible avec dépendance. C'est-à-dire, le psalmiste dit ceci. Il dit, « Ouvre mes yeux pour que je voie des merveilles dans ta parole. » Et nous devons toujours aborder la parole avec cet esprit-là de dépendance en sachant que nous ne pouvons pas. C'est une affaire hautement morale et spirituelle où nous devons, dans la crainte de Dieu, « Ô Dieu, ouvre mes yeux à ta parole qui me dépasse. » Ensuite, lire la parole docilement. Jacques nous dit que si vous regardez la parole juste pour écouter, mais sans obéir, vous êtes comme un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui s'en va et qui oublie où sont les taches. Rien ne change. Si vous avez des taches, si vous avez des boutons, vous voulez en faire quelque chose, n'est-ce pas? Mais donc, on lit la Bible non pas simplement pour être plus connaisseur, mais pour être différent, pour être changé par la parole. Nous devons lire la Bible contextuellement. Je dis ça parce que je ne trouve pas d'autres mots, mais simplement, je veux vous dire que nous avons besoin de lire la Bible selon les règles de la lecture saine. Il y a des gens qui tordent des versets, qui les prennent hors du contexte et qui font n'importe quoi avec la Bible. Mais soyons dans la crainte de Dieu, prenons la Bible dans son sens naturel et dans son contexte. Nous devons lire la Bible spirituellement. Et ça veut dire non pas intellectuellement et non pas sentimentalement. D'accord? Lorsque je lis la Bible intellectuellement, je lis la Bible comme quelqu'un qui dit « ça ne me concerne pas ». Ça, c'est le problème de l'intellectualisme. Je lis, oui, je comprends, mais ce n'est pas une parole qui me concerne. Quand je lis la Bible sentimentalement, voilà ce que je fais. Dans le passé, peut-être à ma conversion, j'étais bouleversé par ma lecture de la Bible, ému. Et je veux retrouver cette expérience sentimentale. Donc chaque fois que je vais à la parole, il y a des gens qui font ça pendant des années, toute leur vie chrétienne. Ils tombent dans le piège et ils ne sortent jamais de ce piège. Parce que leur but en lisant la Bible, c'est de retrouver les sentiments qu'ils avaient à un moment donné. Ça, c'est lire la Bible. Mais Dieu ne donne pas la Bible pour vous donner des émotions directement. La Bible réjouit le cœur. La Bible nous fait craindre. La Bible, mais pas directement, pas si on le cherche comme le but. C'est un fruit indirect. Donc, on lit la Bible non pas sentimentalement pour chercher un sentiment, mais on lit la Bible pour connaître la vérité, la croire et être loyal. Ça veut dire que quand je vais à la Bible et je suis loyal à mon Dieu qui me parle, c'est-à-dire je me sens concerné, je suis concerné par ça, tout de suite cette parole devient, c'est la parole de Dieu à moi. Alors, je lis et je suis repris, je suis encouragé et, ah, dis donc, je me réjouis, j'ai des sentiments, j'ai des émotions, mais non pas parce que je les ai cherchés. Moi, ce que je cherchais, c'était de savoir ce que Dieu me dit et de croire et de vivre cela. D'accord? Et la dernière chose que je dirais, et puis je vais juste vous citer une petite citation en conclusion, mais la dernière consigne, c'est de lire la Bible évangéliquement. Alors, j'ai créé un mot, excusez-moi. Lire la Bible de manière évangélique. Évangile, c'est bonne nouvelle. Quand je lis la Bible, je cherche quelle est la bonne nouvelle, où est la grâce de Dieu pour l'âme et pour moi dans ce passage. Parce que je suis constamment en besoin, en tant que pécheur, de pardon, d'espoir, d'encouragement. Et c'est pour cela que Paul dit en Romains 5, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, la consolation, partout l'Écriture console. » Alors le mot n'est pas bien traduit, c'est le mot « encourager ». Ça nous donne de l'espoir, ça nous met du courage, ça nous donne une solution à mon aujourd'hui, ma situation. Et donc, lorsque vous lisez la Bible, vous devez chercher Christ et la grâce de Dieu par Jésus-Christ et comment il est la solution suffisante pour tout ce qui ne va pas chez vous. Voilà. Je vous lis juste cette citation. Thomas Halliburton, c'était un fameux chrétien écossais dans les siècles passés, renommé en son temps, un pasteur. Et on disait que sa piété n'était rien d'autre que la parole de Dieu habitant en lui. Il a écrit des mémoires qui sont un chef-d'œuvre de la littérature chrétienne. Et ces mémoires sont jalonnées de citations bibliques. Donc il dit ceci à un moment donné. Il dit, c'était la parole qui a converti mon âme, m'a vivifié quand j'étais mort, m'a ranimé et m'a rafraîchi quand j'étais fatigué, m'a soutenu et m'a fortifié quand j'étais prêt à m'évanouir et m'a apaisé quand j'étais comme la mer agitée. Et il attribue tout son bonheur, tout son fruit dans la vie chrétienne à Dieu dans sa grâce à travers sa parole. Que le Seigneur nous bénisse et que la parole de Christ demeure dans toute sa richesse en nous cette année. Nous allons chanter. Numéro 256 dans notre...